Genève. Côté. Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Genève Côté Nature, votre émission verte hebdomadaire. Je m'appelle Émilie et je suis la fondatrice de l'association NARIES qui travaille pour la protection de la nature. Les activités que NARIES propose sont vastes et pour les mener à bien, je suis accompagnée de ma sœur Virginia.
Bonjour tout le monde. Et oui, avec NARIES on travaille sur plusieurs fronts. Tout d'abord, il y a le travail de terrain pour lequel nous avons étudié de nombreuses années à l'université de Neuchâtel et en Afrique du Sud. Au final, nous avons obtenu un master en éco-éthologie évolutive, soit l'étude du comportement des animaux en milieu sauvage. Émilie a ensuite continué dans les études et elle est allée jusqu'au doctorat qu'elle a mené avec l'université de Padova.
Ce doctorat, pour lequel le travail de terrain était situé à Genève, puisqu'il mettait en avant nos chers crapauds sonneurs, a pris part au travail de suivi de population que le département de la nature de Genève avait mis en place. NARIES est l'un des acteurs du suivi des amphibiens depuis près de 10 ans maintenant, et c'est pourquoi, avec Virginia, nous nous sommes spécialisés peu à peu dans l'herpétologie, donc l'étude des amphibiens.
Avec NARIES, nous avons donc du travail de terrain, des suivis de population, des mises en place de mesures de conservation pour aider les espèces sensibles à survivre, en leur facilitant le travail de recherche d'abris ou de sites de ponte pour tenter d'améliorer l'état des effectifs. Mais ce n'est pas le seul axe sur lequel NARIES est active, et non. Depuis quelques années, nous avons à cœur de montrer aux habitants de cette planète qu'il est de notre devoir d'essayer de minimiser notre impact sur l'environnement. Nous avons donc un axe de sensibilisation très important.
Nous avons participé au mouvement mondial des plastiques attaques pour sensibiliser sur le suremballage et les déchets plastiques. Nous proposons des listes de magasins alternatifs pendant le mois de février sans supermarché afin d'éviter de faire nos courses dans les grands centres commerciaux et de favoriser plutôt les commerces de proximité et les circuits courts. Nous tenons des stands dans des festivals pour parler de notre travail et du fait que nos actions sont capitales quant à l'avenir de notre monde et que si nous voulons laisser un monde vert aux générations futures, eh bien il y a encore du travail à faire.
Et en parlant des générations futures, il nous tient à cœur aussi chez NARIES de former de jeunes étudiants qui doivent faire des stages avant de rentrer dans des hautes écoles de gestion et protection de la nature, de paysagisme ou d'ingénierie de l'environnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chers auditeurs, dans Genève Côté Nature, nous vous proposons un côté passion pour lequel nous avons demandé à deux anciennes stagiaires de parler un petit peu d'elles.
Nous vous présentons donc Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et Mia. Bonjour Mia.
Bonjour.
Alors Cécile, on va commencer par toi. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce que tu fais, s'il te plaît?
Alors je m'appelle Cécile, je suis genevoise, j'ai grandi, vécu, etc. fait toutes mes études à Genève, j'ai 25 ans et je suis passionnée par la nature, je pense que vous en doutez un tout petit peu. Actuellement je suis un master à l'université de Genève en sciences de l'environnement. Très intéressant, enfin je viens de commencer donc j'ai pas non plus encore vraiment le pied dedans, mais juste avant j'ai fait un bachelor en ingénieur en gestion de la nature qui demandait justement un stage que j'ai pu faire donc chez NARIES et que j'ai énormément apprécié, aller récolter les petits crapauds dans la nuit dans les bacs.
Donc oui, effectivement, nous on t'a rencontré parce que tu devais faire un stage de 3 mois pour rentrer à l'EPIA, donc l'école... C'est quoi l'EPIA?
C'est la haute école de paysagisme, d'ingénierie et d'architecture.
Voilà. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie? Est-ce que ton attrait pour la nature est ancré en toi depuis toute petite? Ou est-ce que c'était juste pour essayer quelque chose sans forcément savoir si ça allait te plaire? Comment t'es arrivée là?
Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux. Ça, c'est sûr et certain. Comme beaucoup d'enfants, je pense. Depuis petite, je voulais être à la base vétérinaire. Quand j'ai appris que l'école était en Suisse allemande, je me suis dit, bof, on va peut-être laisser tomber. Et puis en fait, c'est mon père qui m'a parlé de cette école. Je suis allée aux portes ouvertes, je me suis un petit peu renseignée. Au début, je voulais voir plutôt par rapport à l'agronomie, mais c'était pas ce qui me tentait le plus. Enfin, bien sûr que l'agriculture, c'est hyper important, mais moi, je voulais vraiment être plus dans la biodiversité et ce genre de choses. Et du coup, les portes ouvertes m'ont tout simplement convaincue que c'était une filière qui allait en tout cas délivrer le contenu que j'attendais par rapport à ça. Et qui permettait de poursuivre ma passion de la nature.
Et alors, dans le cadre de cette formation, sur quel projet est-ce que tu as travaillé? Vous avez fait beaucoup de concrets, j'imagine, quand même, à côté de toutes ces énormes quantités de choses théoriques à apprendre par cœur, dont je me souviens bien.
On a fait beaucoup de projets. Ouais, c'est ce qui différencie, en fait, la haute école de l'université, c'est que c'est beaucoup plus pratique, normalement. Donc on a eu énormément de théories, ça c'est sûr, en botanique, en écologie, etc. Et on a eu aussi beaucoup de projets très différents les uns des autres. On a eu par exemple des projets d'études d'impact de l'environnement, par exemple, qu'est-ce qu'un chantier pouvait avoir comme impact par rapport aux arbres, aux espèces qui se trouvaient sur le lieu, etc. On a aussi eu des projets de revitalisation d'un cours d'eau, par exemple. Super. Donc voilà, remettre... c'était l'exemple, je crois que c'était le Nant d'Avril, mm-hmm. qui est complètement bétonné. Et le projet, l'idée, c'était de faire un ouvrage de rétention et renaturer, en fait, le lit du cours d'eau.
Et vous avez participé de A à Z sur ces projets ou c'était juste...
travail en amont.
Ouais, un travail en amont théorique ou...
Alors, ça a toujours été des projets de façon qui, normalement, devaient aller jusqu'au bout, c'est-à-dire tout ce qui est donc diagnostic, état des lieux, diagnostic, questions de recherche, objectifs, et puis mesures qu'on allait mettre en place. Par contre, c'est jamais des projets qui allaient se concrétiser dans l'avenir. C'était vraiment pour s'entraîner sur des cas concrets, certes, mais voilà, ça allait pas devenir des véritables revitalisations.
Vous n'avez pas assisté à la revitalisation du Nant d'Avril, quoi.
Non, du tout.
D'accord.
Du tout.
Mais ce projet, potentiellement, a pu être repris par d'autres bureaux d'études grâce à vos études préalables.
Je crois qu'aucun bureau d'études n'a repris le projet.
C'est dommage. C'est dommage, autant de travail pour pas.
Ça, ouais. C'est très dommage.
Et vous travailliez tous dans la même voie ou c'était vraiment l'idée d'avoir justement plein d'idées de tous les étudiants?
Alors, ça dépendait des projets. C'était soit individuel, soit par groupe. Okay. Mais on n'était jamais toute la classe ensemble. Après, bien sûr, quand on travaillait en groupe, on échangeait les idées, on débattait sur est-ce que ce serait intéressant de faire des plantations de saules ou justement pas, etc. Mettre un géotextile en toile de jute ou en toile de coco, des choses comme ça, mais plus pour les détails des mesures à mettre en place sur le terrain, etc.
Super.
Excellent, excellent. Et maintenant que tu es du coup à l'université, donc ton bachelor est fini, tu es en master, où tu en es dans tes études? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que c'est la théorie maintenant ou est-ce que tu as encore des projets? Est-ce que tu disais que c'était différent de l'EPIA?
Ouais, alors pour l'instant, c'était un petit peu particulier. On a eu des cours blocs. En fait, dans ce master, il y a 5 spécialisations qu'on doit choisir et qui commencent à partir du 2e semestre. Donc en tout cas, les cours à proprement parler dans la spécialisation que j'ai envie n'ont pas commencé. Mais en fait, depuis le début, ce qu'ils essaient de nous faire rentrer en tête, c'est que ce master, il se veut interdisciplinaire. C'est-à-dire que... ils veulent un peu prendre tous les acteurs, toutes les branches qui sont concernées par la protection de l'environnement, la conservation de l'environnement, et essayer d'initier un dialogue, de pouvoir avancer. Parce qu'on sait très bien, on ne peut pas faire les choses seules.
Bien sûr.
Il faut prendre en compte tous les avis, les politiques, l'économie, les choses comme ça. Et en tout cas, ils ont beaucoup prôné ce côté interdisciplinaire que je trouve hyper intéressant, en fait, parce que c'est très bien de vouloir sauver la nature en tant qu'écologue, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas le suivi de la population, des politiques, etc., ça ne fonctionne simplement pas.
On fonce dans le mur,
mais pour l'instant, en tout cas, c'est très théorique. Apparemment, dans la spécialisation que j'ai envie de choisir, il va y avoir pas mal de rapports à faire. Donc, j'imagine par rapport à des projets. Mais pour l'instant, c'est vraiment théorique. Ouais.
D'accord. Okay. Et à long terme, tu aimerais travailler où? Dans un bureau d'études? T'aimerais monter ta structure? De quoi tu rêves au final, après tes études?
Mon job de rêve, je ne sais pas s'il est atteignable, j'espère. Ce serait faire du suivi de grands félins en Afrique.
Wow.
Ou en Asie,
évidemment.
Voilà. Du coup, j'espère que quand j'aurai fini mes études, il y aura encore quelques félins qui restent pour pouvoir les sauver, n'est-ce pas?
C'est sûr.
Après, moi, c'est pas du tout mon. J'ai pas trop envie de travailler dans un bureau d'études. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une bonne partie de terrain. Bien sûr, le terrain va pas sans le travail de bureau, ça on est d'accord. Mais vraiment, l'objectif, c'est de faire du travail de terrain, faire des suivis de population, animale ou végétale, peu m'importe. Mais c'est ce qui me botterait le plus, quoi.
Ok.
Et justement, dans une optique d'avenir, tu dis très justement, est-ce qu'il restera des félins au moment où tu seras diplômé et que tu devras aller les étudier concrètement? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs par rapport à ce futur de notre planète bleue qui n'est pas forcément, comment dire...
Garanti.
Énormément de choses. J'aurais énormément de choses à dire. Par où commencer? C'est compliqué. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est que déjà les gens aient conscience de ce qui se passe, qu'ils soient sensibilisés par rapport à ça, ce que vous faites très bien d'ailleurs, parce que pas tout le monde est, a conscience en fait des problèmes qu'il y a. Alors bien sûr, le réchauffement climatique, on sait tous que c'est problématique, etc. Mais plus spécifiquement, les gens n'ont pas forcément conscience de si je vais acheter tel produit par exemple, ça impacte ça, etc. Mm-hmm. Et en fait, je conseillerais aux gens d'être juste curieux et attentif de ce qui les entoure, parce que c'est, en fait, je pense que c'est la meilleure manière de prendre conscience de la beauté de la nature. En fait, dans la nature, tout est bien fait, tout est réfléchi, si on veut. Et voilà, ce qui serait le plus intéressant, ce serait que les gens prennent vraiment conscience de ça, qu'on n'est pas seul sur la planète, qu'on a un impact énorme sur l'environnement, sur les espèces animales et végétales. Et voilà.
Très bien, c'est un très joli message. Oui, un très joli message, merci beaucoup. Donc nous arrivons gentiment à la moitié de cette émission, donc à la fin de la première partie. Et normalement, la tradition oblige, on a une pause musicale. Alors est-ce que par hasard tu as pensé, Cécile, à une chanson un peu engagée que tu aimerais partager avec nous ?
Alors oui, il y a un groupe genevois que j'apprécie énormément, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc excusez-moi pour la prononciation du titre du groupe, mais c'est Brada from another mother. Et le titre de la musique s'appelle Bouyaka et je la trouve très actuelle parce qu'en fait elle fait le lien entre le Covid, le fait qu'on a été confinés et que la nature elle a pu se réveiller par rapport à ça et que du coup voilà, il démontre en gros que la nature est plus forte que nous et que avec, je vais mettre des guillemets, avec une maladie en fait elle arrive à complètement nous mettre au pied du mur quoi.
Très bien, et ben on écoute ça, merci beaucoup.
Radio Cité Genève.
Brother from another mother dans tes oreilles.
Yeah man, Babylone s'est endormie.
Et la nature, elle se réveille.
Dans les rues, dans le ciel.
Yeah man.
À la gare, au bowling et dans les tunnels.
Tunnels.
À Paris, à New York ou à Gimel. Y'a plus un chat, et du coup, y'a plein de vrais chats qui sortent. Eh oui, vas-y, cognac.
Est-ce que tu as entendu le chant des perdrix? Est-ce que t'as vu les dauphins revenir en Italie?
Et Kekatsu Flipper.
Est-ce que tu as rencontré pour de vrai un Bambi? Déjà.
Du jeu?
C'est donc si tu pourrais, si tu pouvais sortir de chez toi. Cache-cache avec les belettes.
Cache-cache. Pipi dans la ciboulette.
Cuit-cuit font les jipaètes.
Cuit-cuit. Plus trop trop de monde à la placette.
Bouyaka, il faut, on doit, on croit qu'on contrôle, mais pas du tout. En réalité, madame nature est beaucoup plus forte que nous. Et quand on aura disparu, il restera toujours les hiboux, les silures, les renards et les bambous.
Yeah man, respecte la note nec. Le bouvreuil pivoine, le cirapte paradoxal. Et tous leurs autres collègues, que compte leur règne animal. La salamandre tachetée traverser la route avec ses amis sans risquer le suicide. La nature a enfin la paix durant ce 19e Covid.
J'entends parler du corona, qu'il est passé par ci, il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il faut rester chez toi. Vous devez faut te confiner. La vie est un long combat inachevé. Big up Raga Sonic, mon fire blue. Ça règne tout chouki et les papillons fastueux ne se sont pas fait prier pour aller chiller dans les banlieues. Je ne sais pas si on est trop con pour comprendre qu'on récolte ce que l'on sème et qu'on ne fait pas partie de la solution mais plutôt du problème. Bouyaka, il faut, on doit, on croit qu'on contrôle mais pas du tout. Le monde peut se réinventer après demain, oui, on est chou. Parce que quand Babylone va se réveiller, y'aura de nouveau à tous les coups du bruit, la pollution un peu partout. Yeah man, cette parenthèse va bientôt se refermer.
Alors en attendant, profite et prends des grandes respirations dans tes poumons qui n'ont jamais été aussi roses.
C'était Bouyaka de Brother From Another Mother, les deux comiques des 120 minutes de la RTS. Vous êtes de retour dans Genève côté nature et aujourd'hui c'est un côté passion que nous vous présentons, ma sœur Virginia et moi, pour lequel nous avons fait venir deux de nos anciennes stagiaires. Et oui, chez Nariès, nous travaillons sur plusieurs axes, le terrain, la sensibilisation et la formation des futurs biologistes qui prendront la relève dans notre combat pour préserver la planète. Et dans ce cadre, nous accueillons avec plaisir des jeunes étudiants qui se destinent à une carrière d'ingénieur forestier ou de gestion et protection de la nature.
Dans la première partie de cette émission, nous avons écouté Cécile, une jeune étudiante qui est en master à l'université de Genève et qui se destine à la fin de ses études à aller étudier les grands fauves d'Afrique ou d'Asie en espérant qu'ils existent encore. Tu nous disais, Cécile, que pour toi, il est capital que notre société prenne conscience de l'importance de l'environnement et qu'on apprenne à vivre avec et à le préserver. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Mia, une autre étudiante en dernière année à l'EPIA, donc la haute école de paysagisme, d'ingénierie et d'architecture, qui a aussi fait un stage de 3 mois chez Nariès avant de commencer son cursus d'ingénieur dans l'environnement. Rebonjour Mia.
Bonjour.
Alors Mia, est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs ?
Oui, alors je m'appelle Mia Critico, j'ai 24 ans et je vis à la frontière franco-suisse, donc à Végy-Foncenay, et je suis en dernière année de l'EPIA.
Ok, et alors comment t'es venue cette passion pour la nature ?
Eh ben, je crois qu'elle a toujours un peu existé. J'ai une maman biologiste, donc qui m'a un peu sensibilisée au fait d'observer ce qu'il y avait autour de nous dans la nature. Et du coup, assez vite, je me suis orientée vers une formation en gestion de la nature. Et puis, ça a continué à être plus qu'un passe-temps. J'ai toujours été voir un peu ce qu'il y avait autour de chez moi et m'intéresser notamment à la faune. Et donc voilà, ça a été assez logique comme choix.
Donc on sait que tu t'es vraiment mise à fond dans tes études, mais tu as aussi trouvé le temps de prolonger cette passion en dehors des heures de cours, notamment autour de chez toi, donc en France voisine. Quand tu promènes ton chien, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter les trésors qui habitent autour de chez toi ?
Oui, donc en promenant mon chien, on s'était rendu compte qu'il y avait des terriers de blaireaux qui étaient assez visibles et un assez grand réseau de terriers. Et donc on a décidé de poser des pièges photos, donc chose qu'on faisait déjà sur les alentours, mais jamais sur des zones de vie comme ça.
Donc les pièges photos, c'est des appareils photos où quand un animal passe devant, ça prend une photo ou une vidéo en fonction des paramètres mis.
Voilà, exactement. Et donc, on a posé ces pièges photos et au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'on avait une famille de renards et une famille de blaireaux qui habitaient sur les mêmes terriers. Excellent. Et donc, sur 8 mois, on a pu observer toute la vie d'une famille de renards, puisqu'il y a eu 3 petits, oh. Et la famille de 8 blaireaux, oh là là. Dont des petits qui sont nés la même année. Et donc, on a pu voir l'interaction entre les différents groupes, la façon dont les petits étaient sevrés. Enfin, c'était assez extraordinaire et c'était vraiment super, quoi. Et ça justifiait encore plus le fait de passer du temps à faire ça. Quand on a ce genre de résultat, on n'hésite plus à y passer du temps.
Et vous avez réussi à poser ces cam-traps et à observer tout ça sans les déranger ?
Alors justement, c'était un des plus gros objectifs qu'on avait, c'était vraiment de ne pas créer de dérangement, sachant que c'est une zone qui est quand même relativement urbanisée aux alentours. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet d'autoroute qui a donc la route qu'il y aurait entre Genève et la région Évian-Thonon. Et donc, cette autoroute risque de détruire ce pan de forêt. Okay. Donc, pour nous, c'était vraiment important de leur laisser de la tranquillité et de se dire que même si dans 3 ans, tout devait être rasé, nous, là, on ne créait pas de dérangement. Et donc, quand on allait faire ces poses de pièges photos, on essayait vraiment de se laver simplement avec de l'eau les jours qui précédaient pour pas qu'il y ait d'odeur. On y allait sur les heures les plus creuses, donc où on savait qu'il y avait le moins de mouvement possible. Donc, avant... Ouais, en milieu d'après-midi, quand on savait que les dérangements étaient le plus fort, parce que c'était là qu'il y avait le plus de promeneurs, et donc on essayait de se caler avec les autres dérangements pour pas en créer un de plus. Et donc, on a fait ça pendant plusieurs mois, et je crois pas qu'on a créé de dérangements. On essayait de mettre les pièges photos le plus haut possible pour pas qu'ils les voient, pour pas qu'ils les repèrent, pour pas qu'ils sentent, etc. Donc je crois que pour ça, ça a assez bien été. Et on a fait une seule session d'affût sur les 6 mois, donc d'observation directe, vraiment sur le terrain. Donc on a attendu que les jeunes renardos soient beaucoup plus grands parce qu'on avait peur de faire fuir la mère avec les petits. Et on a attendu que les blaireaux, donc qui étaient plutôt actifs la nuit, soient dans une phase où ils étaient légèrement décalés par rapport au terrier principal pour pas qu'on les gêne s'ils venaient à venir sentir à l'extérieur pendant qu'on y était. Donc voilà, donc ça a été, on a limité un peu les observations, mais je pense que c'était nécessaire.
Génial, et vous avez eu la chance de les voir pendant l'affût ?
On a vu 2 bébés renards et la mère.
Ah, excellent.
Ouais, pendant quelques secondes, c'était furtif, mais c'était génial.
Ah, trop bien.
Ça, c'est la récompense une fois que t'as fait assez des mois à poser des camtraps.
C'est clair, c'est clair.
Donc justement, à propos de cette autoroute, je sais que t'as essayé de faire passer un peu des flyers pour militer contre la construction. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Est-ce que ça a donné quelque chose? Malheureusement, je crois pas.
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, c'est un projet qu'ils ont depuis, je crois que ça date de la fin des années 90. Donc, ça fait longtemps qu'ils en parlent de cette autoroute. Et moi et ma belle-sœur, qui est journaliste, on a essayé de faire comprendre un peu aux gens qui habitaient dans cette région que ça allait pas du tout être une plus-value, mais que ça allait augmenter la pollution, que ça allait augmenter les flux de véhicules, et puis que ça allait pas désengorger. Parce qu'en fait, les gens qui prennent les axes du bas du Chablais vont pas prendre les axes du haut alors qu'ils deviendront payants. Ça a pas vraiment de sens. Et donc du coup, on a essayé de mettre en place des flyers et puis de créer une pétition sur change.org pour essayer de faire un peu prendre conscience. Alors on s'est rendu compte que c'était un combat un peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait. Et que donc ça a pas donné autant de choses qu'on aurait aimé, mais je pense qu'on a un peu informé quelques personnes en tout cas sur l'impact que cette autoroute allait avoir.
Et son inutilité, surtout maintenant qu'il y a le CEVA qui va des fois jusqu'à Thonon. C'est vrai que rajouter un axe payant est un peu inutile, quoi. Bah, on espère qu'elle va pas être construite. Est-ce qu'il y a du coup des nouvelles? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que...
Alors, pour l'instant, on sait que les personnes qui ont lancé ce projet et qui veulent développer ce projet sont persuadées que ça va se faire. Maintenant, on n'a pas encore de réelle démonstration que les travaux vont commencer, qu'ils ont pris des mesures ou des choses comme ça. Mais c'est pas impossible que ça se fasse un peu par derrière et puis qu'on en entende un peu pas trop parler parce qu'ils veulent pas que ça fasse trop de mouvements, etc. Donc on verra. Après, nous, on a quand même l'espoir que les gens réagissent et puis que ça se fasse pas, sachant que, comme vous dites, ça a absolument aucun sens par rapport au CEVA. D'autant plus que la ville de Genève veut limiter les parkings, même les P+R, autour de la ville. Donc, à quoi ça servirait de faire un axe qui donnerait accès aux voitures à l'entrée de la ville de Genève?
Mais du coup, tes images en caméra trap et tout ce que t'as observé, est-ce que il y aura peut-être quelqu'un à qui tu pourrais transmettre le fait qu'il y a une biodiversité incroyable et ce qui pourrait permettre de au moins dévier l'autoroute si elle se fait, ou je sais pas, est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est possible?
Alors on y avait pensé, mais malheureusement, il y a déjà sur ce trajet d'autoroute la forêt de Plan-Bois, qui est un massif forestier aux valeurs exceptionnelles et remarquables, qui est reconnu, que ça soit en termes de flore ou de faune, il y a vraiment des choses vraiment très très intéressantes. Et malgré ça, ça recule pas le projet d'autoroute. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ils vont essayer, je crois que le tracé a 500 mètres de marge entre où ils pourraient le faire et où les plans ont décidé de le faire. Donc en fait, sur ces 500 mètres, on ne sait pas si ça va bouffer la forêt sur 500 mètres ou si ça la touchera pas. Et on ne peut pas savoir avant que ça soit fait. Mais il y a de grandes chances que ça touche la forêt et que ça soit pas vraiment une limite pour les concessionnaires qui vont faire ça.
Ok.
Donc c'est toujours le problème. Nous, on travaille pour la protection de la nature et il faut toujours concilier l'économie, la politique et ceux qui protègent la nature, et c'est jamais vraiment facile. Et on se retrouve des fois, et souvent, un peu au pied du mur, trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc ouais, on va essayer de suivre un petit peu cette histoire pour essayer de voir si on peut faire quelque chose.
Et dernier point qu'on peut aborder, donc aussi vers chez toi par là-bas, ce qui est vraiment une zone assez intéressante, il n'y a pas que des blaireaux et des renards, t'as aussi un peu regardé qu'il y avait pas mal de flore, parce qu'avec tes études tu connais pas mal la flore, et je crois savoir que tu avais proposé à la mairie de t'y pencher et de faire un recensement. Alors ça n'a pas forcément donné lieu, mais qu'est-ce que tu prévoyais de faire?
Alors en fait, c'est une commune qui a des richesses biologiques assez importantes. Il y a deux sites Natura 2000 avec des orchidées assez rares, etc. Et la commune n'utilise pas du tout ça comme objet de promotion pour les promenades, pour les gens qui y habitent ou même pour le tourisme. Et donc moi, je trouvais que c'était dommage de pas utiliser ça pour sensibiliser le public, sachant que les habitants de la commune étaient assez demandeurs de pouvoir se promener, de pouvoir aller en pleine nature. Et encore plus depuis le confinement en 2020, où on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment un besoin de pleine nature assez fort.
Clairement.
Et donc, mon idée était simplement de proposer à la commune de recenser les différentes richesses qu'ils avaient sur le territoire, donc sur différentes forêts, une zone marécageuse, etc. Et à la suite de ça, de pouvoir faire des propositions de mesures, donc que ce soit des panneaux de sensibilisation, que ce soit des propositions d'itinéraires guidés par des associations. Voilà.
Des trucs comme ça.
Exactement. Et donc, l'idée, c'était simplement de faire prendre conscience aux gens qui habitent sur cette commune, parfois même depuis 30 ans, qu'en fait, ils ont une biodiversité qui est juste magique autour de chez eux, mais qu'ils n'en ont absolument aucune idée parce qu'il n'y a pas de chemin, parce qu'il n'y a pas de promotion autour de ça et parce qu'on n'en parle pas. Et donc, sans sensibilisation, bah, les gens ne sont pas au courant et donc, ils en prennent moins soin aussi.
Bah, c'est exactement la problématique qu'on rencontre aussi. C'est pour ça qu'avec Narès, on a cet axe de sensibilisation.
Parce que souvent, les problèmes sont dus à l'ignorance des gens et c'est pas volontaire de faire mal et de causer des problèmes, mais ils le savent juste pas.
Et on peut sensibiliser sur acheter plus en vrac, éviter le plastique, mais aussi sur la richesse que peut procurer une forêt, un parc, une voie verte, etc.
Bon, très bien. On espère que ce projet un jour donnera quelque chose. Ce serait super intéressant pour toi et voilà, de pouvoir appliquer tout ce que tu as appris à l'EPIA. Parce que on se souvient aussi, comme Cécile, on en parlait tout à l'heure, et de toutes ces listes d'espèces que vous avez dû apprendre pendant que vous étiez en stage. Oui, c'était conséquent. Alors, très bien. Merci Mia et merci pour ton engagement et tes valeurs. Nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. Alors, chers auditeurs, dans les rendez-vous de Nariès, nous n'avons rien de prévu cette semaine. Mais n'oubliez pas que le 17 décembre, de 16h à 19h, Nariès tiendra un stand au marché de Noël de Puplinge. Nous y proposerons des éléments de notre boutique écolo que vous pouvez dans tous les cas retrouver en ligne sur notre site internet www.nariès.ch.
Il y aura donc des bougies parfumées, des parfums d'ambiance, des kits de cosmétiques à thème avec des shampoings solides, des cakes vaisselle, des éponges lavables et j'en passe. Il y en aura pour tous les goûts. Et si vous habitez trop loin de Puplinge ou que vous voulez finaliser vos cadeaux de Noël avant le rush de fin d'année, vous pouvez d'ores et déjà passer commande grâce au formulaire de notre site.
Et en attendant, nous voulons encore une fois remercier Cécile et Mia pour leur intervention dans cette émission et leur participation à la protection de notre planète. Alors merci beaucoup les filles, c'était vraiment chouette de vous avoir aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Bah merci à vous et j'espère que mon petit passage à la radio pourra faire évoluer un petit peu les mentalités de la population.
Très bien. Mais on espère. Alors chers auditeurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un côté vadrouille. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.